Bonsoir. Mon nom est Denise Desautels et au nom des membres du comité organisateur de la 37e rencontre québécoise internationale des écrivains, Nicole Brossard, Hélène Dorion, Naïm Catan, Pierre Neveu et sa directrice, Louise Dupré, je veux remercier Joanne Germain, l'ange et l'âme de cette maison, et toute son équipe de nous accueillir aussi généreusement ici. Une maison de la culture qui a développé au cours des ans une belle habitude de lecture publique. Une maison habitée par des imaginaires, des mots et des voix. Tout à fait en accord, en écho avec le thème de la rencontre de cette année, mémoire au singulier, au pluriel. Et je vous remercie également d'être venu assister à cette lecture, au cours de laquelle vous entendrez des écrivains et des écrivaines d'ici et d'ailleurs. Nos invités nous permettront d'entendre la diversité de leurs écritures, de leur approche, leur façon personnelle d'aborder le réel, l'imaginaire, et les errances subtiles, parfois paradoxales, entre le réel et l'imaginaire. Une nouvelle mémoire, donc, ce soir. Notre premier invité, Jean-Éric Riopel, est né à Pointe-Claire et il a grandi dans la région de Lanaudière, une ville qu'il habite depuis plus de 20 ans. En réponse à ma question sur son rapport à l'écriture, sur les liens qu'il voit entre vie et écriture, ce poème. Pas de délire, mais posément dire, la route longée, à travers les entrailles, les paysages de la douleur ou les bas-reliefs de la beauté, mais aussi l'instant vide, celui dont on ne veut pas, occupé à ne rien faire, éplucher des légumes, ranger, faire du ménage, la vaisselle, lire avec beaucoup de distraction, un journal, écouter de la musique, jouer avec le chat. Jean-Éric Riopel lira ce soir un texte intitulé « Le chemin de ligne » qui fait partie d'un recueil de récits en préparation. Jean-Éric.
Dans le premier texte de l'alphabet du feu, Sylvia Baron-Supervielle nous entraîne sur deux rivages qui finissent par se confondre, malgré les milliers de kilomètres, comme au seuil de la langue, dans le mouvement des allers-retours. On reçoit l'exil en héritage, dit-elle, de génération en génération. Il produit des voyageurs prêts à franchir la mer et le mur qui les sépare d'eux-mêmes. De toutes parts palpite la promesse de l'horizon. On guette la ligne miroitante. On cherche à voir la langue. Je suis un de ces voyageurs, aux prises avec le langage et exilé du pays de son enfance. Un chemin de ligne s'ouvrait au cœur de mon enfance. Il paraissait sans fin, sans début, traversant les bois du Vermont jusqu'à la Sibérie. Lisière bleue partant en fumée dans la cathédrale des arbres. C'était le tracé d'une ancienne ligne de chemin de fer montant vers le nord jusqu'au moulin à scie de Radun. On avait démantelé les rails et balayer le gravier. Mais la forêt avait gardé ses distances du chemin de sable jaune, dont le grain s'assombrissait d'une belle teinte orangée une fois imbibé de pluie. La nuit, je fermais les yeux et je voyais les bois défiler, comme de l'intérieur d'un train avec le roulement du métal mauve et les saccades des travées, puis la forêt le jour s'obscurcissait et le bruit se confondait à la chape noire du sommeil. On accédait au chemin de ligne par le bout de la terre, ou plus simplement par le rang, juste à côté de la ferme voisine. Les deux poteaux zébrés noirs et blancs, surmontés de panneaux croisés, étaient tout ce qui subsistait du passage à niveau. Mais en voiture, Il valait mieux ralentir, car la chaussée gardait en mémoire la cicatrice laissée par les rails, accentuée par un léger croche qui garantissait de frôler le décor à haute vitesse. À pied, on tournait sur le chemin, et après une quinzaine de minutes de marche, on commençait à voir des objets hétéroclites émerger aux abords de la forêt et s'enchevêtrer aux arbres. Cuisinières, ventilateurs, récipients métalliques, matelas pourris, squelettes de motoneige, tuyaux d'échappement ou bases de lit à ressort. Cet étrange chapelet se déroulait dans la pénombre livrée aux aiguilles de pin, puis culminait dans une petite clairière pentue où gisaient 5 ou 6 carcasses de voitures des années 50 et un modèle des années 60, tous à divers degrés de délabrement. Pure silhouette couleur rouille encavée dans le cadre béant des glaces. Pare-choc de chrome tordu à la mine compassée, avec une portière ouverte et une lunette arrière fracassée, retenue par la mosaïque des éclats, formant une toile d'araignée concave. Peinture 2 tons, brossée de taches de rousseur. Banquette couverte de morceaux de vitre, avec des bouteilles vides au plancher et une boîte de chaussures remplie de clous tordus. Lieu d'un règlement de compte imaginaire. Un réfrigérateur chancelant et un tombeau de boissons gazeuses aux couleurs défraîchies complétaient ce tableau de casse-croûte fantomatique pour les mouches à chevreuil. Je n'ai jamais été bon dans l'art de la chute. Plutôt, désintéressé par elle. L'évocation d'un fait, la lecture d'un entrefilet ou l'observation d'un paysage, d'une ruelle, d'un geste dans la rue, le trajet d'une phrase formée par la bouche suffisent pour moi en eux-mêmes. Les images me hantent, suspendu, avec la composition de motifs aux multiples conclusions. Chaque petite pièce de temps peut tomber et retomber en s'épaississant, en prenant de la profondeur et du volume, et faire tressaillir du sens et cheminer des sensations. Le réel étant une chose si complexe qui ne peut se soumettre au cloisonnement d'une seule finalité. Le temps est le pouvoir égalitaire de la totalité. La vie jaillit du passage et sur le souffle s'échafaude une construction aussi matérielle que les molécules du corps se consumant progressivement jusque dans ses extrémités. Plus loin, sur le chemin, il y avait une seconde station où se recueillir. Plusieurs voitures avaient été précipitées dans un ravin pour former un amoncellement organique de véhicules tordus gisant sur un lit de branches et de végétation terminant une danse de possession. La mousse recouvrait les essieux et le châssis contaminé par la rouille. Une des voitures avait fini sa course à mi-pente du relief accidenté, incrustée dans un arbre, en un seul corps. C'était mon petit sanctuaire dans la forêt, voué au culte de la corrosion. Bouche à bouche du mystère, pourquoi faut-il tout réemballer dans les bacs, à l'inverse du sommeil, l'hippocampe sur l'estrade, les anémones blanchies sur le massif. Le temps n'est pas volé, c'est un champ marin. Les jambes, sont-ce des aiguilles d'horloge sans heure, parcourues par l'ébruitement d'une corne d'abandon? Qui trouvera l'écrevisse dans tes pieds, sous l'ampoule des fruits sauvages? L'endroit que l'on dit sans ombre, à la rencontre du détroit, pose en équilibre tes yeux dans le paysage. Cherche les morceaux cachés. Visage à découvert, le petit seau d'aluminium dans la bleuetière.
Samira Negrouche est née à Alger, où elle vit toujours. En réponse à la question des liens qu'elle entrevoit entre vie et écriture, cet extrait de « Café sans sucre ». Je dis, pour écrire les choses les plus banales, il faut d'abord écrire sa naissance, de la mère, du père, de l'amour, du corps, des femmes, des hommes, du violeur et des assassins, de l'inceste et du doute, de la nuit et de la faim, du désert, des livres, de la jalousie, du soupçon, du sexe, des ruines, de la mer, des arbres, de l'archéologie, des dieux grecs et païens et des étoiles. Je dis, tout cela est presque banal. Avant et après, écrire. Au moment où elle a répondu à mes questions, Samira Negrouche n'avait pas encore choisi ce qu'elle allait lire ce soir, hésitant entre Seul le poteau électrique, texte en hommage à Senghor, et L'heure juste, tous deux publiés aux éditions La Passe du Vent en 2006 et 2005. Pour lequel des deux a-t-elle opté? C'est ce que nous verrons. Samira.
Bonjour. Eh bien, ce n'était pas L'heure injuste, c'est finalement Le poteau électrique. Je suis la solitude des poteaux télégraphiques le long des routes désertes. Léopold Sédar Senghor dans Poèmes d'hiver. Seul le poteau électrique. Des sillons se creusent dans le désert d'Afrique. Les caravanes ne savent plus descendre dans la terre noire. Le désert a mal de liberté. C'est la légende qui s'inverse contre la mer barbelée. Un sourire encore haletant, des larmes à rebord de cœur, à la frontière de l'espace infranchissable, ce chemin sans issue, cette fuite indéterminée. Ramper vers l'infini, oubli de l'homme. Invisible sa trace entre les chairs entremêlées de sueur et d'effroi. Regard figé sur les corps offerts à l'aventure du passage. Tout ouvrir, jusqu'à la ligne emmurée. Ce sont les mains nues sur la peau de chameaux qui battent l'ultime adieu. Les mères de nos terres naissent pour devenir orphelines de leur ventre et faire don de ces espoirs qui veulent déchirer le ciel, qui se veulent outre destin, ce destin qui n'est déjà plus à elles. Et cette peau encore brûlante, le rythme qui monte saccade la mémoire qui flambe les barques de l'envie. Le ventre grossit une larve solitaire à expulser en haute mer. Et cette nuit toujours absente, je suis au sud de la vie avec ma mémoire d'esclave rouge, de ce sang imbibé de nos craintes. Il n'est point de nation qui me réclame. La nuit viendra me prendre lorsque ces rivages ensoleillés de passions futiles. Désormais, ce sont les amoureux des bancs publics qui hantent mes poumons noircis de sable et ne les voient pas s'emplir de vagues et chavirer et partir et mourir. Cette lumière toujours absente dans la nuit qui se souvient, qui se souviendra. Nul ne doit savoir les gestes furtifs de l'ombre qui passe. Ses mains sont sceaux de panthères des villes et traversent les rues comme une autoroute déserte, un désert de poteaux électriques et de panneaux de signalisation. Je suis seule, dans la négritude de mes poches et le vert trop vert de mon passeport, la désertification est désormais atteinte et la banlieue est un vacarme de dunes. Qui peut arrêter le flux humain ? Il s'agit de congés d'aération, il s'agit de fuites d'aération. L'état d'africanisation est désormais dans leur ville. Département d'outre-centre-ville, où le bus numéro 11 est absent. Passé minuit, passé Almeria, c'est le no man's land d'Europe qui t'accueille et te berce. Ah, rejoindre Dakar depuis Alger, sur des dialogues de Tamtam et de Gnaoui, c'est un mois qui reste vide et des pages de rencontres à combler. Sur des embarcations peu sûres, vers l'île de Gorée, je veux qu'on m'y fasse prisonnière, pouvoir humer cet océan inconnu de chaînes plus longues que l'Atlantique et d'histoires discontinues, boire dans la terre ce départ, cet arrachement. Ce lieu est un domaine muet. Les mots n'y accèdent pas, ni même les prières. Le silence s'y glisse dans un épais brouillard de savane, et plus rien ne compte. La lame aiguisée s'est glissée sur la peau luisante et fraîche. C'est un cri décapsulé qui transperce la chair éteinte d'un plaisir confisqué. C'est un exil dans le corps, et cette femme gazelle est autant de nervures sur sa peau clitoridienne et qui jouit à tue-tête la fibre optique sur son être nu, déchiré et ouvert à la contemplation de l'artisan de ses mutilations. Désir comme enfant de terreur, et ce sein violenté, envié et offert. La terre sait sa maîtresse renier et divulgue ses peines. Avant que l'aube n'apparaisse, courir sans regarder derrière soi les fleuves évaporés et les paroles effritées des sages de légende. Avant, plus avant, le soleil est d'une douceur clémente, m'apprend d'autres caresses, et je deviens un poteau électrique dans une plaine humide, et je passe aussi vite que, sur le parcours d'un TGV, pressé de rejoindre ses rendez-vous parisiens à 8 heures tapantes, et je disparais.
Né à Verdun, Louis-Philippe Hébert vit maintenant dans les Laurentides et à Montréal, où il a pignon sur rue, dit-il, grâce à une galerie d'objets de collection L'Univers et compagnie. Il m'a fallu insister un peu pour qu'il me parle d'écriture. Reçu un matin ce poème, le mot sable. C'est dans le sable qu'il faut chercher le mot sable. Il y est caché, avec une multitude de crustacés qui lui tiennent compagnie. Parfois, en marchant à marée basse, de fines bulles d'air finissent par remonter. Et on les voit sortir par un trou minuscule qu'on ne remarquerait pas autrement. Une bulle, comme les bulles de savon d'un enfant pervers qui se cacherait derrière la plage. Puis, on en voit d'autres trous, d'autres bulles. Il y en a, je peux vous le dire, il y en a beaucoup. Les bulles sortent de partout maintenant. Mais une seule d'entre elles mène au mot sable. Les autres, par un couloir mince comme une paille, conduisent à des palourdes, des crevettes, des crabes, qui refusent de parler, de vous dire où il est celui-là, au bout de quelle cheminée. Le mot sable s'est installé. Après quelque temps, on s'en aperçoit. L'exercice ne sera jamais terminé. On voudrait pleurer, mais comment peut-on éclater en sanglots quand on a une pelle en plastique dans les mains. Louis-Philippe Hébert a choisi de lire un texte tiré du Livre des plages, paru aux éditions Les Herbes Rouges en 2007. Louis-Philippe.
Ce sont deux textes qui font appel à la mémoire. Le premier, ça sera sans doute peut-être un petit peu moins difficile compte tenu du temps qu'il fait maintenant. Il a été écrit le 4 février, un jour de tempête de neige. Ce texte intitule « Chanson d'hiver ». Le soleil qui appuie sur la tête, tu t'en souviens, et le haut des épaules qui plume, le nez qui devient rouge, ce temps où rien ne bouge, la chaleur humide qui nappe la nuque torride, la peau qui fait des cloques et la main sur les sourcils. Tu t'en souviens de ça aussi, la main comme une visière et les casquettes, les chapeaux à large bord. Tu crois que tu peux t'en rappeler et les maillots mouillés qui collent à la peau, les fesses irritées de les avoir portées trop, l'absence de vent, pas la moindre brise, et l'étouffement, la chaleur arrêtée, l'immobilité de l'été. Tu t'en souviens, dis-moi, t'en souviens-tu quand on a chaud et qu'on se demande quand ça va cesser, si la nuit va tomber, si le jour va se lever, pourquoi les draps sont mouillés, pourquoi on n'arrive plus à penser, pourquoi la sueur nous coule dans les yeux et nous brûle plus fort qu'une larme. Tes cheveux trop gras, trop luisants, le crâne rougi sur lequel le soleil repose. Tu te souviens de l'odeur sous les bras et des femmes qui ont chaud dans leur robe et de l'eau dans la bouche et du vin blanc avec des glaçons et des garçons qui rentrent au cinéma en se tenant par la main. Tu t'en souviens, dis-moi, de la banquette de la voiture et du cuir qui cuit les cuisses, du volant brûlant, de cette épouvantable sensation quand le goudron des toitures se mêle à l'asphalte des rues et que monte du sol une ondulation qui déforme le paysage et fait faire aux maisons comme une danse, pendant que sur les balcons on s'évente en pensant que le monde est en torréfaction. « Regarde, il y a un enfant ici avec une glace. » Tu te rappelles de cet enfant, dit, et de la crème glacée toute blanche qui coulait sur sa main et du chocolat sur ses lèvres. Tu t'en souviens de l'enfant au suçon de crème glacée. Maintenant, écoute, on n'entend plus un son. Seul le cri des grillons et le bruit des klaxons et le transformateur électrique comme un bourdon. Tu te souviens de tout ce qui fond, de tout ce qui pèle, de tout ce qui rôtit et de tout ce qui frit, et de ce que ça sent quand une vilaine petite pluie tombe sur le ciment brûlant. Tu t'en souviens, non? Tu t'en souviens, dis-moi. L'autre texte est dédié à mon père qui devait mourir sans avoir de mémoire. Lit de fer, drap blanc, plage blanche, où êtes-vous mes belles plages du dimanche? Que l'eau touche mes pieds, que la petite mousse me mouche le nez. Je veux sentir le froid, je veux sentir son froid. Je veux que mes orteils se tordent glacés. Je veux, je veux, je veux, je veux la plage. Rendez-moi mes yeux, rendez-moi mes lunettes de soleil, rendez-moi la peur rouge sur la peau blême, la fragilité d'être nu-pied, d'être un enfant et d'être désaltéré. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Lit de fer, drap blanc, plage blanche, où êtes-vous, belle plage de mes vacances? Les rideaux blancs battent au vent, on a l'impression que l'air veut rentrer. La tête repose sur l'oreiller, donnez-moi de l'eau. Il fait si chaud à l'intérieur, il fait si chaud en dedans, que le soleil vienne me taper les fesses. Je suis attaché au lit de fer, pieds et poings liés, jambes écartées, derrière à l'air. Ma peau attend les lanières du soleil, ma peau blanche attend les zébrures rouges, que la chaleur vienne du dedans et de l'extérieur de mon corps. Je veux brûler par dehors. Hôpital de la merci, je n'appartiens plus à aucune pitié. Le soleil ne peut plus me toucher, le vent passe par la fenêtre, il ne fait que passer. L'eau entre dans un petit verre ridicule et incassable. L'eau n'est pas glacée. Elle est tiède et brouillée, et le blanc de mes yeux ressemble au blanc de mes draps. Lit de fer, drap blanc, plage blanche. Où êtes-vous, belle plage de la dernière chance? Je vous ai si souvent cherché, je n'ai jamais cherché que vous. Ici, mes compagnons de plage partent pour la mer et vont aux toilettes. Faire pipi est un exploit. Prendre son bain, c'est risquer de se noyer. Revenez, parasols colorés, revenez les rouges, les bleus, les jaunes et les dorés. Couvrez-moi comme des fleurs, parasols sur vos tiges. Abriez-moi de vos couleurs, dansez, courez comme des maillots affolés. Peuplez ma plage d'enfants stupides et indécents. Je veux vous voir fêter les fêtes de juillet, de juin et de mai. Je vous aime tellement. Je veux du bleu et du blanc. Je veux de l'eau et des nuages. Je veux de l'eau. Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. J'ai soif. Je meurs de soif. Et allumez la radio. Je veux entendre crier. Je veux entendre chanter. Je veux entendre des voix qui n'ont pas encore mué. Lit de fer. Drap blanc. Plage blanche. Où sont les belles plages de mon enfance? Qu'un vent chaud me lance du sable au visage et pince ma peau. Que mes yeux brûlent au soleil, je vais sauter à l'eau. Je vais ouvrir les paupières sous l'eau. Le sel me fera mal atrocement. Le sel me fera rougir les yeux comme si j'avais pleuré. La vague me bousculera. Laissez-moi passer. Je suis la vague. Vous êtes pressé, la vague, passez. Je veux être râpé contre le sable. Je veux tituber en sortant de l'eau, m'arracher au caoutchouc mou de la mer. Vous êtes bien pressée, la vague. Vous êtes si pressée, la mer. Venez me dévorer, l'eau. Venez me dévorer, venez me chercher. J'ai si soif. À boire, s'il vous plaît, apportez-moi de l'eau, je vous en prie. Lit de fer, drap blanc, plage blanche. Où êtes-vous, belle plage de mes dimanches? Hôpital de la Merci, l'heure des visites est terminée. Il faut rester couché, pieds et poings liés, tant qu'on ne vous a pas réclamé. Si je parviens à me libérer, si je pouvais dégager une main, une seule, si je pouvais étirer le bras jusque-là, je pourrais attraper au vol une mouette folle, parmi les dizaines et les dizaines de mouettes lointaines qui sont seuls venus aujourd'hui me visiter. Merci.
Et j'écris parce que c'est comme ça. Les mots que je trouve viennent après qu'on me raconte une histoire de vive voix. Ce sont les histoires qu'on me raconte, la charge de la mémoire parlée, qui est le verbe de mon écriture. En ce sens, je ne suis pas seule quand j'écris. J'écris avec l'autre dans le corps. Et cet autre, je peux mieux l'aimer comme moi-même. La femme qui écrit ceci, c'est l'écrivaine Georgette Leblanc, née à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui vit présentement entre deux ports, celui de Lima et celui d'Halifax. Entre Amérique, j'habite en chemin, précise-t-elle. Elle lira ce soir le prologue d'Alma, un recueil publié en 2007 aux éditions Personnages. Georgette.
Mais j'ai envie de lire autre chose. Les mouches m'ont appelée. Et je suis là-dedans. C'est pas de ma faute. C'est le prologue du prochain livre après Alma que je peux pas oublier. Le deuxième livre est difficile. Très difficile. Mais bon, c'est Amédée. Et c'est un western. Et c'est le prologue. Et c'est ce que j'aime en ce moment. L'histoire a braqué dans la nuit. Un soir d'un fond de logis. Étions assis. Avions brassé le fudge, raccommodé mitaine et bas, piqué et repiqué coton en falaise, en horizon, jusqu'aux quatre mâts d'une couverture. Et la soif nous prit. De quoi de fort ce soir-là? Une soif d'eau de lune. Marée montante, je bure jusqu'à caler les bottes. Et c'est du fond de la cale que ça venait. Un son comme une pluie, fine, comme une poussière de loin. Oreille creuse dans la main de la coquille, un braquement. Une chaleur, une pesanteur. Du sable trempe entre les orteils. Et étions pu dans le logis. Étions derrière les rideaux, dans les veines de la nuit. Étions les yeux d'une tempête qui s'en venait vite, qui montait, qui voulait, qui virait, et en virant plus forte jusqu'au galop. Un champ de bêtes pris l'os à faire et faire le cercle de la terre, à battre le cœur en quatre, en faire jusqu'au feu, et les chevaux à la pluie, à la terre entière, comme la fin des temps, comme si en dehors du temps, et les cris d'hommes, et la montée du sang, et la rondeur, et le troupeau, et la montagne, et toute la misère du monde, et la porte rouvrit, la gueule de la baleine rouverte, comme un port, y ouvrir une présence. Des pas de bêtes à deux pattes, des voix d'hommes en rage, une dispute et un cri. Un cri. Et aussi vite que ça va monter, le vent et la pluie et le cheval et toute la misère du monde, un cri. Et s'arrêter. L'histoire a braqué dans la nuit, dans la plus profonde des nuits, dans la sueur de l'attente, ronde comme une goutte qui se nomme point, qui se voit point, parce qu'elle était trop pris à grouiller dedans, trop pris par sa chaleur, par son temps qui se fige point. L'histoire a braqué dans la nuit, dans le cri d'un homme sans nom et sans corps, dans la cri comme la mesure de quatre murs aux vitres rouvertes grandes pour laisser flotter rideaux comme voile, comme l'été et le ciel, et tout ce qui veut faire la paix, déchirer. L'histoire a braqué dans la nuit, dans la sueur de mon écoute, dans l'eau de lune forte, si forte, dans ma marche, pieds nus à gobier, pris dans le cri, pris dans le son, parti, comme on quitte trouver tout ce qui reste. C'est tout. Merci.
Daniele Pieroni est né à Pescara, il vit à Rome depuis son enfance. Il connaît bien le Québec et ses poètes. Vie, écriture, fiction, il me propose un extrait du texte « L'aigu de la vie » qu'il avait publié dans la revue Liberté, la nôtre, en 2002. La poésie est au monde comme paradoxe. Cela signifie de prime abord qu'elle n'est pas organique au monde. On ne convient pas de son horizon, de son sens et de sa valeur. En fait, elle n'est pas conventionnelle, mais elle parle au monde. Elle jette ses mots et ses vers comme des pierres en face du monde. Quelques-uns les recueillent, quelques-uns seulement. La plupart des gens ne voient pas la poésie, n'écoutent pas sa voix. Elle peut entrer dans la vie des humains pour la compliquer, pour la rendre plus profonde. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne l'acceptent pas. Elle est souvent refusée. Parce qu'on ne veut pas se compliquer la vie, on ne veut pas l'intensifier. Alors la poésie reste dehors, comme un violon solitaire qui, dans la rue, résonnerait de façon aiguë, absolue. Daniele Pieroni lira ce soir des poèmes extraits de Florario, un recueil inédit, et je lirai la traduction française.
Ninfee. Fu l'estate calda del 2003, di una Parigi arsa e desolata, che interrogai le stelle e il cielo per sostenere i dubbi e le paure. E quando silenziosamente visitai il Marmottan con le ninfee, la voce emerse da uno stagno a dirmi «Vai e non temere».
Nefea. Ce fut ce chaud été de 2003, dans un Paris ardent et désolé. Je questionnais les étoiles et le ciel pour appuyer mes doutes et mes peurs. Et lorsque silencieusement je visitais le Marmontan avec ses nymphéas, d'un étang la voix surgit pour me dire « Va et ne crains rien ».
Dahlia. Scavai a lungo con le dita nella terra, la fronte madida e le unghie nere. Scavai convinto di seminare fiori. Volevo guadagnarmi il pane con lo sbocciare di una dahlia. Ripresi fiato, bevvi un sorso di acquavite e se fosse giunto un vagabondo avrei attaccato briga. Battermi, lottare senza vero scopo, fino a stramazzare al suolo con un forcone addosso e lambire la stessa terra seminata, promessa ancora lungi da svelarsi.
Dahlia. J'ai creusé longuement dans la terre avec mes doigts, le front en sueur, les ongles noircis. J'ai creusé, convaincu que je semais des fleurs. Mon pain, je voulais le gagner à l'éclosion d'une dahlia. J'ai repris mon souffle, bu une gorgée d'eau de vie. Si un vagabond était apparu, je lui aurais cherché querelle. Me battre, lutter sans vrai motif, jusqu'à tomber au sol, une fourche dans le dos. Effleurer cette terre truffée de semences, promise encore, lente à se dévoiler.
Lantana. Potrei essere quell'isola che è il fiore di lantana, un ombrellino variopinto, un capriccio di natura, una farfalla che non sdegna la crisalide da cui proviene. Potrei essere un'inezia, un sassolino nella cava, un incidente del creato, ma diamine sarei già via nell'ampia bocca dello spazio, nel mare vasto senza approdi, è un salvataggio senza mani. Credo d'essere ancora caro a chi batte il tempo della vita e concede acqua e terraferma.
Lantanier. Je pourrais être cette île, cette île, qui ressemble à une fleur de lantanier. Je pourrais être une ombrelle multicolore, un caprice de la nature. Un papillon qui ne renie pas la chrysalide dont il provient. Je pourrais être une bagatelle, un petit caillou dans une carrière, un accident de la création. Mais diable, je serais déjà au cœur de l'immense bouche de l'espace, au creux d'une vaste mer sans rivage et d'un sauvetage sans fin, sans aide. Je crois être encore aimé par celui qui bat le rythme de la vie, celui qui donne l'eau et la terre ferme.
Merci. Merci.
Née en Picardie belge, entre la verte Flandre et le noir Borinage, Rose-Marie François vit actuellement sur le plateau condrusien, entre Liège et les Ardennes. En réponse à ma question sur l'écriture, elle m'envoie, entre autres, un texte paru dans Le Non-Dit en octobre 2003. En voici, et je le regrette, que deux extraits, début et fin. Pour moi, écrire, c'est parfois jongler sous les étoiles, un pied sur une tombe et l'autre dans la mer, jouer avec les mots, parler avec les morts. Parfois, écrire serait comme arpenter un champ de neige, Le résultat détruit l'ouvrage. Connu, l'étendue n'est plus. Il faut attendre qu'il reneige sous les pas. Mais les traces effacées, le champ s'est déplacé, démesuré. Puis plus loin, si écrire ne servait qu'à répéter sa mort, certes, mais alors pour d'autant mieux vivre. Plumetis et fil tiré, toute nappe de fête deviendra un linceul. Pour moi, écrire, c'est vivre dans la volupté du silence, pensant qu'après ma mort, j'apprendrai le piano. Rose-Marie François a choisi de lire ce soir plusieurs courts textes qu'elle connaît par cœur, me dit-elle, extraits de « Qui nous dépasse », édition en forêt, 1999, de « Sources lointaines », Nordique Tapals, 2002, de « Fresques lunaires », Le Norrois, 2000, et enfin « La saga d'Icanas », Le Taillipré, 2007. Rose-Marie.
Danse païenne. L'orage éclate et brusquement des hordes de bisons, leurs sabots trous de gros nuages de terre bleue, traversent l'ocre de leurs secrets. Le tonnerre à pierre fendre, et puis la pluie noie les silex. Nous dansions nus dans l'herbe haute, et rien dans nos mains n'arrêtait nos paroles. Nos cris sont inscrits dans la mémoire de la peau. Fait divers. On disait les grands bois sombres, et on tremblait. Rien à leur opaque que les branches qui craquent, résine surchauffée. L'œil agrandi cherche une luciole, la pointe d'une pensée. Mais au clair du néon, les sapins vont l'amble. La nuit ne fait plus peur, ni l'ogre. Les enfants eux-mêmes sont des tueurs. Notre mère qui est la terre, que ton nom soit chanté, que nos pas te révèlent, que nos mains te caressent en caressant tes fruits. Donne-nous aujourd'hui les blés de ton amour. Ne brise pas nos ailes comme nous brisons celles des êtres qui nous aiment ou qui nous ont aimés. Mais fais-nous clair danser sur tes plaines cicatrisées et garde-nous dans les vallées de ton giron l'herbe d'un printemps du pardon ou retourner en cendres ensemble. Amen. Je porte un nom de morte. Je suis née de la mort plein les yeux, un reflet décevant de rose. J'ai appris l'agonie en naissant. J'ai l'odorat des anciens temps pour l'humus que les mains remuent. L'enfant tombera des rochers. Mes mains poursuivront des mésanges à fenêtres fermées. Arrêt sur l'image. J'irai vers cette ville, arrêtée dans le coin supérieur gauche d'un soir d'été commençant. Une ville dont on ne sait si elle est rêve, souvenir ou projet. Dont la douceur monte comme une promesse. La rue serait en pente aux pavés arrondis, les arbres seraient gros, et le soleil, au ton passé, laisserait voir son goût pour un prochain élan. Ce serait en Rhénanie, juste après l'après-guerre. On vendrait du sucre de raisin dans un distributeur automatique. Je ne comprendrais pas tout ce qui se dit, je me laisserais flotter dans mon sourire. Il La promenade serait si douce qu'on aurait l'impression de marcher moelleusement assis. Il n'y aurait pas de vent. Les blondeurs seraient tressées et rassurantes. Le temps reprendrait son souffle. On sentirait dans l'air la chaude tendresse qui s'attarde sur les relais où l'on confond départ et arrivée. Il y aurait une Vierge couronnée sur une colline encore verte, un ciel mauve de soie irisée et des trottoirs arrondis en terrasse. On boirait de la bière blanche, du jus de pomme pétillant et le soir étonnant trouverait des fraîcheurs matinales sans qu'on y prenne garde. J'essaierai de me faire comprendre. Mais pour ne rien gâcher, je ne leur dirai pas que je m'appelle Sarah. Take my name. On n'a plus le temps. On n'a pas le temps. La poésie traverse le temps, passe au travers du temps. Écoutez, comme un jour, au Musée national de Copenhague, la poésie me fait d'une momie une merveilleuse amie. Froment, miel, RL. À 18 ans, on l'a couché dans un chêne évidé. À portée de la main, une coupe d'hydromel, froment, miel, RL, près du squelette calciné d'un enfant en bas âge. La vitrine m'empêche de toucher tes cheveux et le bois rugueux du couvercle suspendu à nos yeux profanateurs. Tu as bientôt 4000 ans. Morte au matin des roses, tu n'as pas pu vieillir jusqu'à mon âge. Ai-je en outil, en légende, en voyage, 4000 ans de plus que toi? Ces lanières de cuir tressé, jupe arrêtée sur tes cuisses, tu dansais au soleil. Entre, assieds-toi, que je t'écoute. Ils disent de cet enfant, peut-être un sacrifice rituel. Tu ris dans tes larmes, que tes yeux sont vert pâle, ils ne le sauront pas. Quand on a retiré le petit du brasier où il était tombé, fasciné par la flamme, tu l'as suivi dans l'autre monde, c'est ça? Et comment s'échangent nos langues? Quel est notre parler commun? La traversée se fait dans la tempête. Comme aux pêcheurs, pour les poissons d'argent, on t'a donné un filet pour tes cheveux. Je tends la main vers eux, blondeur cendrée par les jours d'ombre. J'ai ton âge et tu me souris. Mes doigts ne t'atteignent pas, c'est toi qui me touches. Était-ce ton enfant, ton petit frère, celui à qui tu ne pouvais survivre? Et à quoi pensais-tu quand les haches tombaient? Aux chênes en sueur? À ses racines? Qu'à son tour il ne te survivrait pas? Et où rompre la chaîne de ses morts concertées? Pas encore 4000 ans plus tard, puisque tu m'étends les mains. Écoute, tu me prêteras le couvercle, et nos barques jumelles s'en iront côte à côte. Nos filets dérisoires tombent au fond du temps. Qu'y a-t-il à prendre dans la tempête ultime? Tes yeux sont verts, très pâles. Ils ne les ont pas vus. Merci.
Anne Charney est une écrivaine canadienne d'origine polonaise née à Wrocław. Et elle habite Montréal depuis de nombreuses années. Son rapport à l'écriture, à la vie. Écrire, dit-elle, c'est une façon de comprendre le monde et les gens autour de moi. De rendre la vie, ma vie, réelle. De vivre plusieurs vies à la fois, à travers mes personnages. C'est aussi une façon de voyager à travers le temps. D'arrêter le temps en figeant certaines expériences sur papier. Surtout, c'est une nécessité, un besoin profond, une obsession. J'écris, donc je suis. Anne Charney a choisi de lire quelques pages tirées de son avant-dernier roman, Le Jardin de Rousseau, lequel a été publié chez Flammarion, Québec, en 2001, et chez Sabine Vespizère, éditeur, à Paris, 2003. C'est de la version parisienne qu'on aura un extrait.
Pas la première fois que je constate que les poètes ont vraiment tous les avantages dans la lecture publique, mais essayons quand même. Alors, ce roman, comment? Ah, merci. Ce roman commence à Paris, dans le parc des Buttes-Chaumont, un des grands jardins de la ville, construite au 19e siècle, sur un terrain vague qui avait servi comme dépôt pour les ordures et les cadavres des prisonniers. Claire, l'héroïne de ce roman, découvre que la vérité qu'elle recherche repose aussi sur des bases bien précaires et même sinistres. Un matin ensoleillé de mars dans le parc de Buttes-Chaumont, Claire Simons, qui attendait son mari, Adrian, éprouvait pour cet endroit plus qu'un intérêt touristique éphémère. Ces quelques hectares de verdure au cœur de Paris étaient liés à un souvenir d'enfance empreint d'un sentiment de joie irrésistible. Elle est venue ici pour retrouver le lac où les enfants faisaient voguer leurs petits bateaux. Traversant le terrain accidenté, hérissé des promontoires escarpés, Claire se conforta dans l'idée qu'elle était au bon endroit. Le parc semblait à peu près dans le même état que sur les photographies du siècle dernier vendues à l'entrée. Le paysage toujours bien entretenu, les banques intactes, indemnes de tout vandalisme. Dans l'épaisse canopée verte de printemps, Claire pouvait entendre le chant des oiseaux. La sérénité de la scène n'était pas troublée par des radiocassettes, des transistors ou des frisbees passant dans l'air. Aucune silhouette menaçante ne rôdait parmi les allées bien tenues. Le décor de son enfance restait le même. En marchant le long des berges, elle se demanda ce qui avait rendu si vivace le souvenir de cette lointaine journée quand elle et sa mère Dolly faisaient naviguer un petit bateau. Pourquoi avait-il survécu alors que tant d'autres moments de bonheur en compagnie de sa mère s'étaient évanouis? La mémoire était une zone d'activité sismique. Chaque secousse émotive ensevelissait un peu plus de terrain. Il ne fallait pas s'étonner que chaque souvenir heureux devienne un précieux relique. Elle décida de suivre un chemin raide jusqu'au point culminant pour avoir une meilleure vue de ses environs. De là-haut, elle repéra l'eau miroitante comme dans son souvenir et les enfants jouant tout autour. Elle était trop loin pour distinguer les petits voiliers, mais elle savait qu'ils étaient là. Elle se hâta vers ce bassin en suivant un sentier sinueux, se dirigeant vers l'eau qui apparaissait et disparaissait au milieu des arbres comme un mirage tentant, jusqu'à ce qu'elle arrive au bord. Contemplant l'étendue, plus petite et plus enclavée que dans sa mémoire, elle sentit la présence de passé l'envelopper comme une douce couverture familière. De nouveau, elle entendit la voix apaisante de sa mère. De nouveau, elle sentit les mains de sa mère alors qu'elle, qu'elle échinait à faire voguer, s'échinait à faire voguer le petit voilier à l'aide d'une longue perche. Après quelques tentatives malhabiles, Claire se décourageait. Tout autour, le spectacle des enfants français maniant les leurres avec dextérité ne l'aidait pas. Mais Dolly restait proche, la douce manche de son chandail caressant le visage de Claire, guidant les mouvements jusqu'à ce qu'elle prenne le coup de main. Elle pouvait encore entendre les cris de joie poussés par sa mère et sentir ses bras la soulever de sol et entraîner dans une danse triomphale. Ensuite, côte à côte, elles regardèrent les voiliers voguer à la rencontre de la mini-flottille française. La visite au Butte-Chaumont et le petit voilier faisaient partie des efforts de Dolly de transmettre à sa fille l'amour qu'elle avait pour Paris. Selon Dolly, le charme de cette ville se trouvait dans cette poésie particulière que les Français apportaient à tous les actes de la vie ordinaire. Il ne suffit pas de prendre un guide de voyage et de cocher les monuments célèbres, elle expliqua à Claire. Il faut voir tout Paris comme un musée. Les us et coutumes de la vie ordinaire en disent autant sur le caractère de Paris que ses édifices historiques. Les propos de Dolly ne l'intéressaient pas beaucoup à l'époque. Mais depuis son arrivée, Claire fut heureuse de découvrir qu'elle partageait les sentiments de sa mère. Ses visites quotidiennes au marché en plein air, à la boulangerie et au café de coin, au kiosque à journaux, chez le traiteur, le marchand du vin, étaient empreintes de courtoisie et de légèreté qui rendaient plaisant le moindre de ses déplacements. Chaque jour renforçait l'impression de continuité et d'intimité avec la présence de Dolly. C'était facile d'imaginer sa jeune mère auprès d'elle, la guidant et l'encourageant, comme elle avait fait ce jour lointain au Butte-Chaumont. Maintenant, 30 ans après, la ville entière prit soudain l'allure d'un labyrinthe dont les pistes attirantes semblaient mener vers les secrets du passé. On m'a demandé de lire un petit paragraphe dans la langue dans laquelle j'écris, l'anglais. Alors, je vais le faire. Mais j'aimerais vous signaler que ce n'est pas ma langue maternelle non plus. The park was beginning to empty, so as people headed off for lunch. She checked her watch to see how late Adrian was, late enough to be in trouble. Seeing no sign of him where they were supposed to meet, she walked along an obscure path that led to a ravine. If Adrian had trouble finding her, he deserved no less. The petty, chronic crimes of the people we live with are the hardest to forgive.
Notre prochain invité, un habitué lui aussi du Québec, est né dans la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et il vit actuellement dans le nord du pays, dans un petit village ardennais. Et je le cite. Sur les liens entre vie et écriture, vie et fiction, j'ai écrit des dizaines et des dizaines de pages, et je ne suis pas sûre d'être capable de faire un résumé, sinon que pour moi, l'écriture est permanente, quotidienne et consubstantielle à mon existence. Je ne conçois pas ma vie sans écriture. La vie est une fiction, et la fiction est la vie. Car comment partager entre le soi-disant réel et les fantasmes? Entre le vécu et le rêve. Être vivant sur cette terre, c'est la fiction la plus folle et la plus inimaginable. Et pour essayer de dire cette folie-là, il faut sans cesse recommencer à écrire. Et ça continue, continue, jusqu'au bord de la trappe. Puis on y tombe dans la trappe et on ne dit plus rien. That's all. Finito. Basta. Lambert Schlechter lira deux textes parus dans l'anthologie Au fil du temps, édité par le Castor Astral en 1999, Quand et écrire. Lambert.
Alors, quand, comme le mot l'a dit, c'est une sorte de méditation poético-métaphysique sur la fuite des jours. Quand? Quand plus rien ne compte, quand le temps presse, quand il y a plein d'urgences alentour, plein de tâches à exécuter, poubelles à vider, feuillets à remplir, réponses à donner, déclarations à faire, excuses à obtenir, quittances à signer, patates à acheter, patates à éplucher, patates à faire cuire, courgettes à rissoler, parapluies à ranger, tournesol à semer, insomnie à soigner, réveil à réussir, démarche à éviter, réunion à marchander, partition à déchiffrer, alexandrin à mettre en musique, omission à escamoter, candélabre à surveiller, abysse à sarcler, cambrousse à arpenter, impudence à esquiver, papier peint à ménager, catastrophe à minimiser, la vie à vivre, la mort à mourir, le temps à temporiser, les saisons à célébrer, les clopes à rationner, les clopes portes à décimer, les énumérations à limiter. Quand le temps presse, quand le temps est court, trop court, quand le temps court, quand le temps chute, quand le temps est par terre, quand le temps est compté, quand il ne reste plus de temps, quand ça coince de partout, quand ça couine dans les impasses, quand les portes de secours sont rouillées, verrouillées, quand le vieux littré se vautre insomniaque sur son divan marmonnant « J'y vois plus clair, j'y vois plus clair », quand les herbes, brin par brin, se dessèchent, quand c'est la saison du grand sursis, jusque-là et pas plus loin, quand c'est soudain, manifeste et inéluctable, quand le promeneur du soir risque à tout moment de surgir au coin de la rue, quand les réverbères de la nuit risquent à tout moment de s'allumer, quand le désespoir est assis sur un banc, le loden kaki entrouvert sur la balafre dans la poitrine, quand plus rien ne compte que le temps compté, quand ça coince de partout, quand tout coïncide, quand cohite le soleil de Néfertiti avec la lune de Nijinsky, quand les pronoms se désolidarisent pour semer la cisanie dans la syntaxe, quand le L de la planète devient le il de l'astre, quand le « il » du sbire devient le « je » du scribe, quand l'encre « blau schwarz azul nero blue note » de ma Waterman vire au vermillon sanglant des victimes que je n'ai pas comptées ni commentées, quand tout ça, c'est le moment ou jamais. Mon deuxième texte est une sorte de méditation poétologique sur l'écriture. Écrire. Écrire, c'est faire baisser le niveau de l'encre dans l'encrier. C'est toujours commencer à écrire, c'est enfin commencer à écrire, c'est définitivement cesser de ne pas écrire. C'est choyer la respiration, échapper à l'étouffement. C'est s'essouffler, c'est dire la même chose matin et soir, c'est larmoyer muet et mutin, c'est flanquer des coups de pied dans la termitière, c'est à l'aveuglette donner coloris au clapotis des minutes, c'est épuiser le mot mort comme si ça pouvait fonctionner, c'est dire il n'y a rien à dire, c'est dire, disait Desnos, tout, mais pas plus. C'est dire la vie vite, c'est tout sauf écrire. C'est une autre manière de faire de la menuiserie. Écrire, c'est écrire voici le sujet et débobine la bobine. C'est éjaculer sec. C'est se souvenir des leçons d'Ovide et de Pindare. C'est faute mieux, c'est bonheur lorsque le mot vient. C'est beau comme baiser, cette horreur, vermine et suicide. C'est les sept dernières paroles, sans vinaigre et sans violon. C'est aller comme va le scarabée. C'est l'échappée belle et à l'onction extrême. C'est éventer à tout le monde des trucs de syntaxe intime qui n'intéressent personne, sauf la menthe jolie et fraîche et secrète qui demande « Comment es-tu ?» C'est dégueuler le sirop bigot des curés et réimaginer des religions fraternelles et poétiques, des prophètes souriants et des saintes sans chasteté. C'est ne pas perdre son temps avec la chartreuse de Parme. C'est concocter des clafoutis à la compote séculaire. C'est essayer de ne pas pasticher la Bruyère ou Kafka ou Pavese. Écrire, c'est pour demander « Montre-moi tes seins ». C'est fredonner, c'est chanter, c'est allégresse pour rien et peine perdue. C'est merci à Mozart pour le lacrymosa et le voix qui s'apaite. C'est ne pas encore pourrir. C'est pourrir et pour chialer. C'est pour écouter le grattement de la plume sur le papier. C'est taper dans la poisse des rhétoriques. C'est s'emberlificoter dans les innombrables métaphores qui tournent autour du pot pour faire joli. C'est s'enrouler dans le cordon ombilical, se mimer fœtal. C'est dire et maudire le premier râle et le dernier vagissement. C'est réinventer la cigale et la fourmi. C'est frétiller tétard qui n'est que tête et queue. C'est renaître mort-né et papillon. C'est par nuit, plusieurs fois et par jour, savoir Bergen-Belsen à deux pas du parterre où je viens de semer des tournesols. Écrire, c'est risquer le bouquet pour un brin d'herbe.
Notre prochaine invitée, la poète Tania Langlais, est née à Montréal, ville qu'elle habite encore aujourd'hui. En réponse à ma question sur l'écriture, beaucoup de concision, ces quelques vers. Le poème n'est pas un crime. Déguiser la douleur animale, le maquillage furieux. J'ai la répétition qui sauve dans la main droite. Ma césure est sans repos. Tania Langlais lira un extrait de son dernier recueil publié aux Herbes Rouges en novembre 2008. Kennedy sait de quoi je parle. Tania.
On va y arriver. Voilà. Le désordre compte ses boîtes. 1er juillet, 20h20. Je m'occupe à faire disparaître une maison de poupées, le visage de mon père. Et combien de bêtes pour mordre, j'ai quelque chose d'autiste dans la voix. Je suis déversée, je sais cela, heureuse, noyée presque, déliée de moi. J'attends le léger bruit de l'eau sur les poumons. Tranquille, tu n'auras rien à dire. Voici mes heures jetées sur toi. Il ne s'agit pas de prendre la mer avec autant de fatigue dans la voix que de cordage sauf. La mémoire des sous déchire. Je suis sans protocole ni prescription. J'ai dû me faire des fenêtres sur les côtés. J'habite un carré noir, la clôture, le cheptel. Et les heures sur les chats, j'accuse. Je suis celle à qui c'est la faute. Je me dispute les retailles, les malades, inquiète, je suis impossible à refermer. Je découle les lèvres de ta bouche, j'aurai bientôt fini de t'achever. Le beau temps, le livre ouvert, tu as décidé de mourir longtemps. Dans le bleu russe de ton nom, je répète, je suis celle à qui c'est la faute. La mémoire est une chambre absolue, le grand naufrage, les traces de doigts, je n'ai tué personne, ma fatigue même. Parmi les choses qui m'ont laissé tomber, moi c'est Feulé que j'ai en tête. Je suis une espionne. Je sais qu'un jour ce sera le matin, pour la première fois couchée, dans la boîte aux lettres, le chat dort dur, parce qu'il connaît ce livre-là. Il se fout bien de l'avant-garde. Si je tombe devant vous, dites que je ne casserai pas pour le plaisir de la réplique, parce qu'une réalité menace. La douleur animale, le maquillage furieux, j'ai la répétition qui sauve dans la main droite. Je collectionne les cheveux morts aux brosses des filles mortes, à la mère sauvée déjà du désordre Kennedy et moi, à l'épreuve du temps, nous savons, il fait mauvais déranger les vivants. Je suis un hôpital. Le soleil éclabousse les murs. Je ne sais pas si la bête est un deuil trop grand, couché dans une boîte. Mais la grâce, je sais, la lumière réussit. Kennedy s'invente des nageoires quand la tête me fend, une fois pour toutes vos têtes. On dit, cette fille est fragile. Ici, tout le monde porte un fusil. Je tire sur ma jupe, un bateau coule. Je suis un petit fantôme bleu, un pur sang détaché des livres, avec l'aplomb de la grâce, la lumière réussit mon chat. Dans la dernière chambre, comprenez bien, mourir est un métier comme un autre. Je suis une espionne, avec mes gestes de poupée, je ne ressuscite personne. Quelque chose d'autiste dans la voix, je vous ramènerai. Kennedy, c'est de quoi je parle. Merci.
Né dans le Jura suisse, à Porrentruy, où il a été entre autres postier, garçon-livreur, comédien, cadre commercial et député, il s'est retiré dès 1992 en France voisine, à Courtelevent, où il se consacre dès lors, comme il l'écrit lui-même, à l'écriture, à la rêverie, à l'aquarelle et à l'art d'être grand-père. Pour me parler de son rapport à l'écriture, il me fait parvenir un texte extrait de Autobiographie, l'intégrale, Campiche éditeur, volume 8, publié entre 2006 et 2008, dont voici malheureusement que quelques lignes. Le temps m'enseigna qu'il n'y a pas de vérité, ou plutôt que la seule vérité est celle qu'on écrit, à laquelle on s'est donné une forme. Le monde n'est pas tel que nous le voyons, il est tel que nous le disons. L'art seul, en son éternelle et ravageuse remise en question, des relations de l'homme avec la nature et la culture, donne un sens à notre destinée. Producteur de sens, disent aujourd'hui nos sémillants sémiologues, oui, le poète donne un sens à la vie et sa poésie n'a de sens qu'elle-même. Mais si la vérité est dans l'encrier, l'aventure est au bout de la plume. Figurez-vous que le monde s'élabore mot à mot, syllabe par syllabe, devant nos yeux, vos yeux hallucinés. Vous comprenez que vous êtes encore en vie parce que vous avez trouvé réponse à des questions qui n'étaient pas formulées. Par chance, vous avez les pieds sur terre. Alexandre Voisard lira quelques pages d'un récit autobiographique, le mot « musique », qu'il intitule pour la circonstance « Le cœur de la terre » et qui a à voir aussi avec la mémoire de la rencontre. Alexandre.
Seul, parmi six frères et sœurs, je recherchais l'ombre fraîche, le sous-bois désert, l'insecte méconnu. Toute chose alors me parlait un langage dont je ne saisissais que des bribes, que j'entassais fébrilement et qui finirent par constituer un fond d'énigmes auquel, devenu homme, je mesure encore ma chance et mes cadences. Sans doute l'enfance ne m'a-t-elle pas révélé l'essentiel ? Du moins m'aura-t-elle légué le besoin de m'interroger sans relâche sur les abîmes que je frôlais, sur les sommets que je pressentis subrepticement parfois. Quant à mon père, il me voyait avec plaisir me passionner pour la nature. Longtemps, il m'encouragea à approfondir mes découvertes, me donnant avec assez de parcimonie quelques notions établies qui me permettraient de rechercher par moi-même de nouveaux cheminements. Je garde une tendre reconnaissance à mon père qui sut alors m'enseigner des choses capitales et avec tant de discrétion. Je reste persuadé que c'est au cours de ces années-là que j'appris authentiquement à vivre. Tout m'intriguait. Jamais il ne laissa une seule de mes questions sans réponse. Un jour, j'étais alors âgé de 7 ans, et j'avais demandé innocemment à mon père ce qu'il y a sous la terre et si quelque chose de vivant y habite.
« À l'intérieur de la terre, me dit-il, il y a le cœur de la terre. »
Et comme je lui demandais si en creusant avec assez d'ardeur, on pourrait atteindre les profondeurs où gît le cœur, il fut affirmatif. Aussitôt, je m'emparai d'une piochette et cherchai dans les alentours un endroit propice pour entreprendre mes fouilles. J'avais trouvé bientôt un coin de terrain sablonneux et je me mettais à creuser un trou large comme une paume. J'avais à peine donné quelques coups de pioche qu'une forme flasque, de la grosseur d'une noix, m'apparaissait. Je la pris vivement dans ma main. C'était doux et chaud. C'était bien un cœur, probablement un cœur d'animal. Mais la découverte était si inattendue, si brutale, que je criai comme un fou. « Le cœur ! J'ai trouvé le cœur de la terre !» Bien vite, ma joie se changea en scrupule, puis en peur. Enfin, je cédai à une véritable panique et j'enfouis à la hâte le cœur où je venais de le trouver. Un sentiment de sacrilège et de malédiction s'empara de moi. Les arbres se mirent à danser, les maisons à pencher, et j'eus le sentiment que le ciel s'assombrissait. Je courus à toutes jambes, droit devant moi, et me cachai dans le recoin le plus sombre de la cave où je restais prostré pendant des heures. Je n'osais jamais parler de mon aventure à mon père. Or, avec le recul des ans, je suis persuadé qu'il lui aurait été impossible de mettre au point une quelconque machination. D'abord, il n'en aurait pas eu le temps, car j'avais pris ma décision aussitôt après avoir obtenu sa dernière réponse, et qu'une ou deux minutes seulement m'avaient été nécessaires pour trouver un outil et choisir l'endroit de ma fouille. Ensuite, mon père ne pouvait pas connaître cet endroit. Toujours est-il que dès ce jour, je fus préoccupé par le moindre événement qui se joua devant mes yeux et qu'une certaine angoisse ne me quitta plus, implacable et légère, scellée sur ma poitrine comme le sacré cœur de Jésus sur sa divine poitrine qu'on voyait affichée un peu partout. Plus tard, vers ma 15e année, une anthologie poétique que ma sœur aînée utilisait en classe était parvenue entre mes mains. J'y lisais distraitement des textes peu faits à cette époque pour susciter mon enthousiasme.
lorsque je tombais sur un poème d'Éluard, comme un papillon nocturne bute sur la lampe. Le titre en était « Sans âge » et le poème commençait ainsi. « Nous approchons, la terre en a le cœur crispé. » Je relus plusieurs fois ces deux vers sans pouvoir poursuivre. « Nous approchons, la terre en a le cœur crispé. » J'étais bouleversé. Je revivais obscurément la limite de la conscience, la mésaventure prodigieuse de mes 7 ans. Je me revoyais petit enfant, mais je me voyais très mal à travers plusieurs images superposées, comme dans une vie antérieure. Je me revoyais étrangement penché sur la terre avec ma petite pioche. Comment décrire et cerner, comment éclaircir ces choses qui se sont passées dans les marges du rêve. Tout s'illumine et aveugle le regard trop vorace. Le paysage s'enfle, les oiseaux familiers se dispersent en milliers d'étincelles, les mots se déforment en un écho inextinguible. Je n'ai qu'une seule certitude, c'est que deux vers d'Éluard, phares soudain projetés sur ma première enfance, m'ont fait sortir d'un seul coup de ma chrysalide. Je venais de naître à la poésie, et ma sensibilité ainsi libérée, aiguillée, n'allait plus cesser de me pousser au-devant des périls et des passions.
Notre dernière invitée, la poète Claude Bert, est née à Nice et vit à Paris. Elle est heureuse, semble-t-il, d'être revenue parmi nous, elle qui en est à son 3e séjour au Québec. Elle nous lira ce soir un extrait de « La mort n'est jamais comme », je crois, oui, un livre qu'elle a fait paraître à l'Amandier à Paris et dont la 3e édition est toute récente, 2009. « La poésie est pour moi », écrit-elle dans l'année poétique 2008, « langage chargé, protégée du bavardage, tête chercheuse en même temps que présence du corps, expérience à la fois exigeante et immédiate, creusant sillon au cœur de la langue, elle la creuse dans notre humanité. Penser, sentir, faire, la travail dont le jeu essentiel et gratuit du « qui nous sommes ». Et c'est aussi mettant du jeu dans les rouages de la langue qu'elle en dénoue, parfois, les apories, en traverse les clichés, y étreint du libre de l'avenir. Émotion, mouvement vert. Puis elle ajoute, toujours allant dans la tension, l'inquiétude, le refus aussi, dans l'indécidable de l'humain, sans certitude hormis celle d'aller avec et de résister à, celle d'un non au pire et d'un oui à l'inachevé, de toute parole grosse de sa suite. Claude.
Alors, je vais effectivement lire un extrait de « La mort n'est jamais comme », qui a effectivement eu le prix Van Gogh, le prix international Livre Van Gogh, il y a 3 ans. J'ai hésité, je me suis demandé si j'allais vous lire un texte qui évoquait la résistance et la parole de l'histoire mêlée à la parole individuelle, mais il est un peu long. Donc, je vais m'en tenir au texte liminaire de ce recueil. C'est un peu bas. Au texte liminaire de ce recueil qui alterne des poèmes verticaux, des colonnes et des stèles qui sont des fragments très denses et dans lequel se fait à la fois peut-être une poétique de la parole et une poétique et un travail du deuil et de la mémoire et de l'oubli. Ce qui reste, parfois, je l'appelle poème. Car toujours le poème n'est que ce qui reste une fois que, après que, avant que, ou alors il ne reste rien. Ce qui reste de mémoire dans le corps et ce qui reste de mots pour dire, une fois tu l'emballement des mots qui s'écoutent, peut-être par défaut, mais c'est le mot qui me reste comme d'ici où j'écris sans savoir ce qui va rester, ou même s'il va rester, comme par exemple, quand une fois déserté et déshabité enfin le nom, il ne reste que ce qui reste de la soustraction. Quand écrire est soustraire et par ce retrait saisir, ce peut être parfois ce qui reste de la poésie. Quant à ce qui reste du poème, ou s'il en reste, il m'arrive de m'en inquiéter, comme d'une parole de ma mort, tout en sachant qu'elles sont indifférentes, cette parole et ma mort. Je m'en inquiète par sursaut du corps et de la conscience, mais jamais autrement. Sinon la colère m'envahit comme si me menaçait cette asphyxie que provoquent les systèmes avec leurs orthodoxies et leurs anathèmes. Cela est injuste, et sans doute injuste, mais tant pis. J'ai préféré les mystiques aux dévots et le silence aux dogmes, si bien que je profère peu de paroles que je ne rature aussitôt après, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, ou presque rien. Cette lacération de beaucoup de ce que je dirais et cette douleur, c'est ce qui reste de mon histoire avec la philosophie, quelques fragments des cahiers de Wittgenstein et la définition spinoziste du bien comme augmentation dans l'être et du mal comme diminution dans l'être, c'est ce qui reste avec le poème. Avec le poème surtout, comme un essai très difficile, très prudent de réconciliation, tant je redoute ce qui se dit d'eux et ce qui se dit sûr, comme un essai de parole qui cesse d'eux, et cette cessation, ce qui reste, une fois que cesse la tyrannie de la parole, je l'appelle poème. De toute façon, dans ce qui reste, j'entends ceux qui restent, écoutant ta mort dans les mots, qui ôte parole à la parole, et ce qui reste, quand on est de ceux qui restent, et soi-même ce qui reste, est tellement rien de la parole, absence de langue, dans cette absence qui est déjà la langue, trou dans un trou que les mots disant se vident, et cette absence les comble, comme les pelletées de terre comblent la tombe, et les mots qui restent emplissent ma bouche comme la terre emplit la tienne. Ce qui reste de toi, par exemple, tes pieds devenus rigides, que l'on avait pu faire entrer dans tes chaussures. Je revois ces chaussures mal mises, et cela me travaille de n'avoir pu remettre tes chaussures mal mises, comme si tu avais à marcher, comme si tu marchais. Mais tes bras et tes mains étaient chauds et souples, même 2 jours après, et je les ai placés comme tu le souhaitais. Voilà ce qui reste dans ma mémoire, dont il ne restera rien. Ce qui reste, c'est parfois trop, trop muet et trop prolixe pour une bouche. Ce n'est pas le silence qui reste, c'est le mutisme. Et le ciel parcourt le ciel immobilement. Ce qui reste des morts, c'est aussi le ménage des morts. Après la mort solitaire du père, j'ai fait le ménage. Les vêtements, le linge, la vaisselle, les papiers, les objets, on trie, on jette, on donne, on prend, on range. Ce ménage de la mort, je l'ai fait ensuite pour des morts familiaux plus lointains, pareil le linge, les vêtements, les meubles. Et même pour une très vieille morte par surprise, en plein mois de juillet d'une crise cardiaque et emportée 2 jours après par les pompiers, le ménage des premiers verres de gros verres blancs qui couraient sur le carreau à l'emplacement du corps. Et pareil le linge, la vaisselle, les meubles, les papiers. Et maintenant, le ménage de toi. Celui-là impensable, et pareil ce qui restait de toi, de tout temps, notre, le linge, les habits, les papiers, les livres. 1 an a duré ce ménage de la mort, vidant sac par sac, moi aussi vidé sac par sac, et maintenant qu'il faut dévendre la maison où ont échoué ces restes des morts, et que je vis de tout, c'est comme s'il fallait que je me charge du ménage de ma propre mort. Des poèmes aussi restent de toi, et je pense triomphante. Une fois fait le ménage des morts, le poème, c'est ce qui reste à ceux qui restent. Et je classe des fragments et des bris dans de vieilles chemises froissées, des tiens, des miens. Je relise les phrases raturées encore lisibles. Mais ce qui reste, ces bribes de textes inaccomplis et même les accomplis, ces restes, je les rassemble comme recueillant des restes mortuaires et ce qui pouvait être émouvant, les traces de ce que nous sommes ou festifs, celle de ses restes sur la table des anniversaires ou dans le drap des célébrations intimes. Tout cela sombre avec le reste, et ce qui reste, c'est la mort. Dans ce qui reste, j'entends ce qui reste, et moi-même restant à l'inventaire de ce qui reste de toi, de nous, mémoire gibecière prolifique, même si pleine d'oiseaux tués. Il reste tant que, je voudrais dire, tout ce qui reste, sortant de ma bouche des brassées de rubans, de colombes, de lièvres, de tisons, de foulards, en quantité inimaginable. C'est incroyable ce qui reste d'une vie, cette immensité dans la mémoire. Il faut que je dise toutes sept, et puis non. La mort fait des mots une obscénité. Ce qui reste n'appartient qu'à moi, qui appartient pour mi part à la mort. Et ce qui reste de ma vie à ce jour, c'est ta mort. J'entends ce qui reste et je n'entends plus rien. Ce qui reste de toi, je ne peux pas l'imaginer, pas imaginer ton visage, tes yeux, ta bouche, sans leur chair, ou ta chair pourrissante, ou tes yeux d'un regard extrême et inépuisable, avec les pupilles crevées par les gaz de la fermentation. Je sais, je peux voir même, mais je n'entends pas. Je n'entends pas ces mots-là. Ils sonnent blancs. Je ne les comprends pas. Ce sont des mots écrits, mais d'impossibles paroles. J'entends ce qui reste dans ce qui reste. Et dans ce labour du vers qui retourne mes mots, j'entends soudain vers comme vers de cadavre, ou bien je lis dépouille et le mot fait défaut jusqu'à n'être pou, plus qu'une dépouille sonore, et j'entends dépouille ou dépouilleux jusqu'à la langue part en lambeaux, jusqu'à ce que je ne comprenne plus ce dont je parle, comme de cette difficulté à dire tu n'es plus, et les morts sont vivants, ou si les morts ne sont pas vivants, mais les morts s'ils sont pas vivants, alors quand nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts, mais la mort. Et comme ça, des heures durant, et ce bruissement sous les mots qui les effrite, c'est aussi la mort. Mais pour toi, parce que plus solitaire en mort que moi ici, avec pas même comme moi pleurs et chagrins, avec rien, ou alors avec quoi, toi ? Ce jour de printemps pluvieux, à la lisière du bois de Boulogne, avec les pigeons et les fleurs mauves des trèfles, tu te souviens de ce tréma sur le bienvenu de Montparnasse, qui a isolé pour nous le mont entier, nous accueillant, et de mes trèfles à quatre que tu nommais herbe à lapin ? Ces trèfles, sous leur enveloppe de scotch, je te les donne. Au cas où demeurerait monnaie de notre âme, comme glisse entre les doigts cette menue monnaie d'un bonheur mort. Pour toi, à qui ne reste rien en mort, et pas même savoir et sentir de la mort. Ou alors, mais cet alors est trop démesuré pour un tissu d'âme élimé par la peine. Pour toi, parce que sans yeux, t'offrant ce que mes yeux voient, sous la pluie fine qui nettoie l'horizon, cette maison sur les hauteurs du port semblable à celle que nous aurions habitée, comme une parole ou un geste amoureux, comme nous aurions regardé ensemble ce ciel pervenche du sud sur la mer grise, et les aurions trouvés beaux dans leur présent, sans en espérer plus. Et l'air frais qui fait légèrement frissonner les épaules dans l'auteur des eucalyptus et de l'iode, il n'y a pas de preuve. Mais la peau n'en a pas besoin, ni les nuages dans le jaune de l'aube. De la mer séparée, ne reste qu'une ligne au bout bombé du ciel. De toi à moi, cette ligne qui va sombrer. Merci.
Alors, si vous avez aimé les lecteurs, lectrices, leurs livres vous sont offerts derrière par la librairie Le Port de Tête. Je voudrais aussi remercier Lynn et Maxime qui étaient à la technique, Eric qui était à l'entrée, toujours Joanne qui nous accueille ici chaque année si généreusement. Je voudrais aussi remercier Hélène Dorion qui s'est occupée cette année de l'affichette et de notre petit livret et qui a permis que nous ayons comme décor aujourd'hui cette image de Carole Bernier. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là. À l'an prochain. Merci.